13h14, on va parler un peu du tramway de Québec et de tout le réseau de transport structurant.
Ouais, on en parle pas souvent.
Non, on en parle pas mal. Puis je te dirais, ça fait 3 jours qu'on est en comité plénier après le dépôt du rapport d'impact environnemental qui a été fait par l'administration Labombe. Au début, on était parti pour avoir une seule journée de comité plénier, donc lors duquel le directeur du bureau de projet est invité à répondre aux questions des élus. Mais là, on est rendu à la 3e journée. Et là, là-dedans, il y a eu un changement de ton du maire.
Oui.
Et pour en parler, on va se tourner vers le chef de l'opposition officiel à l'Hôtel de Ville de Québec. Il s'agit de Jean-François Gosselin. Bonjour, M. Gosselin.
Bonjour.
M. Gosselin, d'abord, comment interprétez-vous le changement de ton du maire qui est maintenant prêt à prendre tout le temps nécessaire pour que vous puissiez poser vos questions?
Ça, c'était mardi. Hier, mercredi, c'était fini.
Ah oui, ça a duré.
Ah oui, ça a duré 24 heures.
Il nous parlait même de jusqu'à Noël, s'il faut.
Ça a duré 24 heures.
OK, parce que lui, il nous disait, c'est l'esprit des fêtes, puis il faisait même un cadeau, là. On comprend que le ton a changé. Là.
Non, c'était l'harmonie, mardi, ça devrait toujours être comme ça, mais non, hier, c'était terminé.
OK. Dites-moi, là, jusqu'à présent, il y a plusieurs informations qui sont sorties. Vous l'avez mentionné, une centaine de questions à adresser au directeur du bureau de projet, M. Genet. Où en êtes-vous rendu?
De la bouche même du président, tantôt, là, qui a fait le décompte. C'est un travail quand même assez minutieux. C'est 143 questions, mais c'est pas tant le nombre de questions. C'est plus... Nous, on a axé sur la qualité. Faut comprendre que c'était la première occasion que nous avions de poser des questions à Daniel Genet, qui est le chargé de projet du projet de tramway. Donc, nous, les citoyens, via courriel, de vive voix, messenger, téléphone, ça rentre toujours de partout là, depuis une bonne année. Donc, on a compilé toutes les questions. Dans les dernières semaines aussi, l'administration Labombe a déposé là, quasiment 3 à 4 000 pages de documents. Mm-hmm. Donc, nous, on épluche tout ça. Et là, on écrit des questions. On fait un travail pour les trier, arriver avec des questions de qualité. Toutes les questions sont numérotées et nous, on les pose nos questions à la suite de l'autre. On est obligé, dans certains cas, parce qu'on n'a pas beaucoup de réponses précises, il faut le dire. Donc, nous, on essaie d'avoir des précisions. Lorsqu'ils n'ont pas de réponse, on demande quand est-ce que vous allez nous revenir. Donc, on en est là dans l'exercice. Et pour nous, c'est important de le faire parce qu'on travaille pour les citoyens. C'est le plus gros projet de l'histoire de la Ville de Québec et on va continuer de travailler de cette façon-là.
Le printemps dernier, alors que M. Labombe était en convalescence, il y a eu certains comités pléniers, certaines de ces périodes de questions pour comprendre certains projets, notamment l'usine de biométhanisation et le centre de tri organique qui ont été rendus publics, donc c'était disponible via web diffusion. Comprenez-vous pourquoi l'administration Labombe, pour le plus important projet de la Ville de Québec, n'a pas tenu à ce que les échanges qui ont cours actuellement à l'Hôtel de Ville ne soient pas publics de la sorte?
Ça aurait été la bonne façon de fonctionner. À chaque fois qu'ils rendent une étude publique, nous devrions avoir accès, en tant qu'élus, évidemment, parce qu'on représente les citoyens, aux spécialistes. Donc, l'étude de bruit, par exemple, on n'a pas eu accès aux spécialistes. L'étude de Sistra, l'étude comparative, supposément qu'on a comparé les différents modes de transport lourd avec les deux professeurs du HEC. Donc, on n'a pas eu accès. Les médias ont eu accès, ça c'est une bonne chose.
Oui.
Mais nous, comme élus, en démocratie, on aurait dû avoir accès aussi à ces spécialistes. Ça aurait été la bonne façon de faire, un peu comme vous spécifiez. Là, normalement, les gros projets à la ville, on a accès aux fonctionnaires, on peut poser nos questions.
Là, il y a eu la question du phare qui est revenue dans les dernières heures. En fait, je pense que c'est hier, sur le financement, parce que, bon, au début, on nous avait dit, pour le défunt projet de SRB, que le pôle d'échange serait en quelque sorte à la charge du groupe Dallaire, qu'ils en paieraient une bonne partie de la facture, sinon l'entière totalité. Là, ce que l'on comprend, c'est que c'est toujours pas ficelé.
Ça... Hier, justement, c'est un bon exemple parce que hier, mon collègue de Démocratie Québec, notre collègue M. Rousseau, a posé quelques questions sur le pôle d'échange. Nous, on avait une multitude de questions aussi. Et les élus d'équipe Labombe, écoutez, depuis 3 jours, ils ont peut-être posé une dizaine de questions en tout et partout. Là. Donc, eux suivent le maître, là, on va dire comme ça.
Ils regardent la balle passer.
C'est donc. Ça, eux sont là pour suivre ce que M. Labombe décide. Et là, à force de poser des questions, un moment donné, on faisait référence à un scénario de référence. Après ça, un scénario intégré. Et là... À force de poser des questions, à force de demander des précisions, c'est là que le chat est sorti du sac. Et c'est là qu'on a appris que finalement, le partenaire financier, on n'est plus certain s'il va participer au montage financier. Mais aussi, souvenez-vous, au conseil municipal, il y a quelques mois, on avait voté un sommaire décisionnel qui qui donnait l'obligation par règlement là, aux partenaires financiers de livrer le pôle d'échange, le phare, pour le 1er janvier 2022. Et là, hier, le maire, encore une fois, à force de questionner, d'essayer d'avoir l'information, a finalement dit clairement qu'il n'y avait plus de date ferme pour le 1er janvier 2022. Ça reste à voir comment tout ça va s'arranger, parce que c'est un pôle d'échange majeur. Là, lorsqu'on parle du tramway, on réfère souvent à une colonne vertébrale. Mais le pôle d'échange, le phare, c'est une grosse vertèbre.
Il y a plusieurs des opposants ou même des gens qui se questionnent, qui ne sont pas nécessairement opposants au projet, sur le déneigement. Et là, ce que l'on a appris ce matin, c'est que ce ne serait peut-être pas le déneigement, mais davantage le verglas qui pourrait causer problème pour le tramway.
C'est ce qu'on dit depuis le début aussi. Oui, il y a la neige. Il y a la neige qu'on va pousser de chaque côté de la fameuse plateforme. Ouais. Et là, ça aussi, c'est pas tout à fait clair, là, comment est-ce que ça va s'arrimer, tout ça. Mais nous, nos questions plus pointues ce matin, c'était vraiment par rapport à la glace. Parce qu'on a parlé à un expert qui nous explique que la glace s'accumule sous les rails. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a vu, par exemple, à Toronto, là, un tramway déraillé à un moment donné. Et là, moi, ce qu'on voulait savoir ce matin, c'était comment allez-vous fonctionner? Et aussi, nommez-nous trois villes comparables à Québec. Là. On parle des côtes, on parle du 300 cm de neige en moyenne, on parle des variations de température importantes. J'ai dit, trois villes. Nommez-moi trois villes dans le monde comparables à Québec où il y a un tramway en fonction présentement. Mais comment ça fonctionne? Comment eux font pour enlever cette fameuse glace-là qui accumule? Et là, ils nous ont dit qu'ils allaient nous revenir avec trois noms de villes. J'en suis pas revenu. Là. Je pensais que ça serait une question facile à répondre. Mais non, même incapable. Donc, incapable de nous expliquer comment on va faire pour enlever cette fameuse glace-là qui va s'accumuler. C'est assez particulier. Là.
On voit ce matin, il y a dans Le Soleil une lettre ouverte. En fait, c'est Monsieur Donald Charrette qui écrit « Je suis contre le projet de tramway et je m'explique ». Donc, il y va de longues explications et c'est une lettre qui a été passablement relayée. On voit qu'il semble y avoir une grogne, des gens qui disent qu'il y a un déficit démocratique dans tout ce projet-là, parce que Monsieur Labeaume n'en a pas parlé lors de la dernière campagne électorale. Vous aviez lancé une pétition pour demander la tenue d'un référendum sur le projet. Où en êtes-vous là-dedans? Parce que, à ce que je sache, elle n'a toujours pas été déposée. Est-ce que vous avez les 10 000 signatures de gens de Québec? Parce que vous aviez tenu à... Ça, c'était peut-être un petit peu plus difficile là, à les dénombrer. Mais est-ce que vous avez atteint ça? Et quand? Qu'est-ce que vous allez faire avec cette pétition-là? Parce que, à ce que je sache, elle n'a toujours pas été déposée. Là.
Non, on a atteint l'objectif là, de 10 000 personnes de Québec. Faut savoir qu'on a la version en ligne aussi, qui est toujours en ligne. La dernière fois que j'ai regardé, elle était toujours en ligne. On a fait aussi beaucoup de porte-à-porte. On a été rencontrer des gens. On était au marché Jean Talon un dimanche matin. On a fait signer la pétition. Mais je dirais que on va la déposer en temps et lieu. C'est certain qu'on va la déposer éventuellement.
Ça commence pas à être un peu tard, parce que là, il y a quand même 1,9 milliard qui ont été votés pour le programme quinquennal d'immobilisation. C'est un peu difficile de revenir en arrière puis de remettre la patte dans le tube. Là.
Ça, on reviendra à ça, mais je vais terminer mon point. Moi, je vous dirais qu'au-delà de notre initiative à nous, comme opposition officielle, comme moi, comme chef de l'opposition officielle, d'y aller avec une pétition pour demander à M. Labeaume de faire un référendum, moi, je suis content de voir que des citoyens, je l'ai lu la lettre à laquelle vous référez aussi ce matin, pour pas le nommer, là, Donald Charrette, qui c'est pas n'importe qui non plus. Donc, moi, je suis content de voir des initiatives citoyennes depuis une semaine. Là, c'est incroyable, le nombre de courriels, de via Messenger, les gens qui m'écrivent, les gens qui m'envoient des questions, là, j'en reviens tout simplement pas. Moi, je trouve que les gens, de plus en plus, prennent connaissance dans quoi Régis Labeaume est en train de nous embarquer. Et ça, pour moi, c'est un bon signe. C'est un bon signe et on se sent de moins en moins seul, parce que l'hôtel de ville, la maire, nous répète souvent qu'on est les trois seuls au Québec qui ne sont pas favorables au tramway. Donc, nous, on va continuer de faire notre travail, puis je suis content de voir que des citoyens embarquent aussi.
Mais la question de Jonathan est intéressante, parce que moi, je sens un peu la même chose que vous. Les gens nous écrivent beaucoup, nos collègues en parlent aussi, puis on sent que autant des gens qui sont en total désaccord avec l'idée d'un réseau structurant, autant il y a des gens qui, comme moi, pensent que c'est une bonne idée un réseau structurant, mais pas dans sa forme actuelle. On sent que cette espèce de grogne-là est en train de se matérialiser un peu, mais en retenant cette pétition-là, qui aurait probablement un impact, vous trouvez pas que vous manquez un peu l'opportunité de cristalliser cette grogne-là pour essayer vraiment de mobiliser des gens?
Pas vraiment, parce que, en passant, nous, on est d'accord pour améliorer le transport en commun au Québec. Là. On est d'accord aussi qu'on doit avoir un réseau, là, nous on l'appelle un réseau performant et non structurant, donc qui viendrait améliorer le transport en commun au Québec. Nous, on est d'accord avec ça. À moyen long terme, à court terme, on peut améliorer le RTC dans sa forme actuelle. C'est ce qu'on continue de répéter. Mais je dirais, la pétition demande au maire de Québec de tenir un référendum. À venir jusqu'à maintenant, c'est toujours une fin complète de non-recevoir. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, nous, on continue de la faire signer. On continue, évidemment, d'en parler avec les gens. On voit qu'il y a des initiatives citoyennes à gauche, à droite aussi qui prennent forme. Donc, pour nous, en temps et lieu, on verra quel sera le bon moment pour venir déposer cette pétition à Régis Labeaume pour le forcer à tenir un référendum. Mais à venir jusqu'à date, c'est une fin de non-recevoir de sa part.
Là, on est à mi-mandat. Les élections, c'est 2019?
7 novembre 2021.
21, OK. Dans ce cas-là, est-ce que vous avez quand même déjà envisagé la possibilité de faire campagne sur l'idée de consulter plus les citoyens? Parce que moi, il y a quelque chose que je trouve un peu absurde, municipal, provincial, fédéral, mais de voter pour un parti, en l'occurrence au municipal, c'est l'équipe Labeaume, à qui on donne un chèque en blanc pour 4 ans, puis qui réussit à mettre en branle des projets comme le réseau de transport structurant qui coûte une fortune. C'est le plus gros projet d'infrastructure de l'histoire de Québec, le plus dispendieux. Puis il nous en parle pas en élection, il nous en parle pas en campagne, il nous arrive avec ça une fois que c'est terminé, bing-bong, ça déballe. Avez-vous déjà pensé qu'il y aurait peut-être une façon de convaincre des gens de voter pour Québec 21, ou du moins de sortir l'équipe Labeaume en leur disant, savez-vous quoi? Si vous votez pour nous, on va passer les lois nécessaires, on va changer la réglementation pour que... D'abord, il y a plus, tu sais, peut-être en revenir au fameux registre comme il y avait à l'époque, qui faisait en sorte qu'à un moment donné, avec un certain nombre de signatures, il y avait une pétition, puis là, on était obligé de...
Tenue de référendum.
C'est ça, ça impliquait un peu plus les citoyens, parce que là, comme citoyens, on ne se sent pas impliqué partout.
Normalement, une campagne électorale doit servir à ça, surtout pour le plus gros projet de l'histoire. On arrive en campagne, on déballe un peu ce qu'on va faire si jamais on est élu. Ça sert à ça, une campagne électorale. Ça n'a pas été fait en 2017. Par Régis Labeaume, non seulement ça n'a pas été fait, il disait qu'il était contre le projet de tramway.
Ouais.
Contrairement à Mme Guérette, qui, elle, était ouvertement pour ça.
Et a mordu la poussière.
C'est ça, on connaît les résultats. Donc, normalement, une campagne, ça sert à ça. Nous, c'est certain, vous l'avez mentionné, on est à la mi-mandat. Donc, je ne vous déballerai certainement pas notre stratégie pour dans 2 ans. Je vais me garder ça pour moi et mon équipe. Mais c'est certain qu'on est déjà en mode, nous, de rassembler l'équipe, recruter des candidats, des candidates qui vont faire partie de l'équipe en 2021. Je vais avoir une équipe forte autour de moi parce que moi, je suis le genre de leader qui aime m'entourer de gens forts.
Mais ça vous a-tu déjà traversé l'esprit, juste cette idée-là, de trouver un moyen quelconque, mais d'impliquer plus les citoyens et de donner un pouvoir aux citoyens dans des situations... Là, c'est une situation qui est quand même assez extrême. Là. On parle d'un énormissime projet quand même.
Je vais y aller avec une réponse, je dirais, une de mes valeurs. Une de mes valeurs qui est très chère. Moi, avant tout, je crois à la démocratie. Et la journée où je deviens maire de Québec, je ne ferai pas quelque chose que les citoyens ne sont pas d'accord. Si j'en ai pas parlé en campagne électorale, exemple, si je me suis pas fait élire là-dessus, et que c'est un projet majeur, à l'occurrence, un projet de tramway, par exemple, on arriverait à mi-mandat et il y aurait une opportunité incroyable qui se présenterait, je ferais un référendum. Je demanderais un mandat à la population. Moi, c'est la forme de démocratie en laquelle je crois. Il faut que les gens... faut que ça soit comme ça. Faut que les gens puissent voter, surtout pour les plus gros projets. En même temps, on est élu, faut diriger, il faut prendre des décisions. C'est ça, on est d'accord avec ça aussi. Mais lorsqu'on parle de projets majeurs, comme un projet de tramway qui va changer à tout jamais la face de notre ville, faut que les citoyens puissent se prononcer.
Là, vous savez, on va garder le tape, nous autres. On va garder l'archive.
Ouais,
c'est que là, le jour où vous allez être maire, on va leur jouer.
Mais aussi, d'ailleurs, ça m'amène à un autre point, c'est qu'il y a la population, mais il y a le conseil municipal aussi. Les conseillers municipaux aussi, à un moment donné, faut les écouter. Moi, je me souviens de mon...
Moi, j'écoute ça à ma TV le lundi, sur mon divan, je vois ça aller, puis des fois, je trouve que vous êtes bon, vous gardez votre calme. Parce que sérieux, c'est...
On prend des grands respirs.
Oui.
Mais aussi, je me souviens, mon expérience, et je termine là-dessus, mon expérience avec la DQ avec Mario Dumont, moi, j'adorais lorsqu'on faisait des caucus. On était 41, et là, Mario et les autres, disons, porteurs de dossiers, arrivaient avec certains sujets, et là, on pouvait en débattre. Et là, on amenait nos points, puis on donnait un peu notre opinion. Après ça, on s'entendait sur une position, sur une façon de faire. Pour moi, c'était un exercice qui était démocratique. Moi, j'ai toujours aimé cette façon-là de voir les choses. Et j'aime certainement pas de la façon que ça se passe à l'Hôtel de Ville présentement.
Merci, M. Gosselin.
Merci beaucoup.
Merci de nous voir. Jean-François Gosselin, chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, chef de Québec 21.